de relire les deux textes de base à tous ces partages bibliques. On peut commencer par l'évangile. Gérard, on va commencer par l'évangile de Luc. Hein, c'est un ordre un peu inversé. Chapitre 3, et on va lire ensemble dès le premier verset jusqu'au verset 6. Voilà, hier je disais qu'à force de lire et de relire ces deux textes, vous allez finir par les réciter par cœur. Hein. Luc, chapitre 3, et le verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Et puisque dans ce texte, il est fait référence aux écrits du prophète Ésaïe, c'est dans Ésaïe 40 que je vous propose de lire 5 versets, les 5 premiers versets. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée ou rehaussée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Consolez, consolez mon peuple. Avec toute une suite d'impératifs et en finale, une formidable promesse. Je rappelais hier que ce paragraphe se constitue de trois parties. L'annonce d'une bonne nouvelle, l'annonce d'une conséquence glorieuse, la gloire de l'Éternel sera révélée au verset 5, et entre la bonne nouvelle et l'accomplissement glorieux, un deuxième texte qui sert de trait d'union et qui nous montre l'impérieuse nécessité de préparer le chemin du Seigneur. Et je comprends que si nous faillons et si nous ne nous employons pas à préparer le chemin du Seigneur, nous compromettons l'accomplissement de la glorieuse conclusion. Parce qu'il y a cette petite conjonction « alors » qui relie la gloire de Dieu révélée au fait que d'abord, précédemment, nous avons préparé le chemin du Seigneur. Cette parole du prophète Ésaïe, comme parfois cela se vérifie, a un accomplissement à plusieurs dimensions. La première dimension, elle est historique. Dieu annonce la fin de 70 années de captivité et d'exil en Babylonie. C'est la première application. La servitude est finie. Et effectivement, Dieu a suscité des hommes et des circonstances. Il a influencé favorablement le cœur de rois et de gouverneurs pour que ces 70 années de captivité historique aient leur terme et qu'Israël sorte de cet exil douloureux. Mais nous l'avons lu dans Luc 3, ce texte est repris. Et là, c'est Jean-Baptiste qui rappelle cette merveilleuse proclamation. Là, c'est la deuxième dimension de l'accomplissement de cette promesse qui annonce la venue du Sauveur. C'est la deuxième application, la venue du Messie, la venue du Sauveur. Cette venue devait être préparée et le ministère de Jean-Baptiste qui a prêché la repentance, et ce message a labouré la conscience dans le peuple d'Israël. C'était un message préparatoire. Il a préparé la venue du Messie en prêchant le message de la repentance. Et je disais hier que la repentance, qui est le seul moyen de préparer le chemin du Seigneur, ce n'est pas des remords qui gangrènent l'âme. Les remords n'arrangent rien. Ce n'est pas des larmoiements récurrents et chroniques. Ce n'est pas de s'abaisser et de se mortifier et de s'enliser dans une certaine dépression intérieure. La repentance, c'est la tristesse selon Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur dans nos cœurs. Moi, je me souviens de ces premières réunions où, en entendant l'Évangile, une tristesse mais suscitée par Dieu remplissait mon cœur parce que je prenais conscience, car la repentance est une prise de conscience, que j'étais un pécheur perdu, mais qu'en même temps Dieu m'avait tant aimé, qu'il avait donné pour sauver ce pécheur que j'étais, son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. J'ai été saisi par cette tristesse salutaire. La Bible nous dit que cette tristesse-là, on ne la regrette pas parce qu'elle nous introduit dans la conversion, dans la foi au Sauveur, dans la vie éternelle, dans le salut. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons l'espérance et l'assurance qu'un jour, nos yeux le verront. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la vraie repentance, c'est ça. La repentance, ce n'est pas destructeur, c'est salutaire. Je répète, parce que parfois nous avons des amis qui se mortifient et avec une faible estime de soi, ils se rabaissent volontairement, ils ont plein de complexes, on va en reparler tout à l'heure, mais tout ceci, ça ne règle rien. La vraie repentance conduit à l'appropriation du salut par grâce, que le Seigneur soit béni. Et donc, c'est la deuxième application. La venue du Seigneur sur la scène de l'humanité afin de sauver quiconque croit. Amen. Et puis, il y a une troisième application à cette annonce de la venue du Seigneur, c'est quand le Seigneur vient dans mon cœur. il faut préparer le chemin. Parce que le Seigneur veut venir dans mon cœur, dans ton cœur. Il veut venir dans tes combats. Il veut venir et intervenir dans tes questionnements, dans tes blocages, dans tes incompréhensions, dans tes tentations, dans tes combats, tes difficultés, dans toutes les phases inconfortables, douloureuses, ballottées que tu pourrais traverser. Le Seigneur veut venir. Les mains chargées de bénédictions. Alléluia. Mais il faut préparer le chemin. Et tout ce que nous partageons pendant ces 4 jours sont là pour nous aider à préparer le chemin. Il faut préparer le chemin. Je parlais du héros, H-E-R-A-U-T ou L-T, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas français d'origine. Donc, qui courait devant son souverain. Il courait. Vous voyez, le roi ou l'empereur était en route. Et il y avait son héros qui courait peut-être 1 kilomètre avant, 2 kilomètres avant, et il disait « Préparez le chemin de l'empereur, préparez son chemin !» Et alors on nettoyait le chemin, on enlevait les obstacles, et il y avait une mobilisation joyeuse de la population, il faisait une haie d'honneur, et le souverain arrivait, tout était prêt, et il passait. Sans encombre, sans avoir à gérer des obstacles qui auraient ralenti sa progression, voire stoppé sa progression. Entre le Seigneur qui veut venir dans ta vie et l'état dans lequel tu peux te trouver aujourd'hui, il peut y avoir besoin de préparer le chemin. Peut-être d'enlever des obstacles. Peut-être d'enlever des cailloux, des grosses pierres. Toutes sortes de choses qui encombrent, qui gênent. Alors préparer le chemin du Seigneur, c'était le message du héros, c'est le message ici de Ésaïe. Jean-Baptiste le reprend, nous voulons nous l'approprier également. J'ai envie de dire Seigneur, je veux vraiment être délivré, débarrassé de tout élément qui entre toi et moi serait un obstacle. Amen. Et donc on va continuer un petit peu dans ce sens-là, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais redire combien c'est merveilleux quand Jésus vient. Alléluia. Et même plus que cela, je dirais que très souvent, c'est la vraie solution. Il faut que Jésus vienne. Notre bonne volonté, notre sagesse humaine, nos explications, nos essais, nos efforts ne sont pas suffisants, nous le savons bien. Il faut que Jésus vienne. Et pourquoi pas ce matin? Et pourquoi pas dans ta vie, dans tes combats, dans la partie la plus intime de ta personne, afin d'y faire avec son amour, sa délicatesse, mais aussi son efficacité, une œuvre de déblaiement, gloire à Dieu, qu'il ôte tout ce qui pourrait être un obstacle à sa venue. Voilà, c'était quelques rappels nécessaires pour ceux qui n'ont pas pu venir hier. Et là, on s'aperçoit qu'il y a tout un travail, parce que pour préparer et frayer un chemin, mes amis, on ne peut pas y aller avec une cuillère à café, mais on doit déployer des engins impressionnants. Je disais que dans la région nord de Nîmes, il y a eu des travaux gigantesques pour faire une voie rapide qui évite le centre de Nîmes et rejoint Lunel et Montpellier. Vous voyez, mais ça a duré des années et il a fallu une puissance mécanique impressionnante. Et donc, ils ont façonner le paysage, ils ont complètement changé le paysage. Ce sont des centaines, voire des milliers de tonnes de terre, de roches qui ont dû être déplacées, gérées de manière à frayer le chemin. Et je disais que dans des travaux semblables, eh bien, il y a cette réalité qui parfois est mal vécu par les particuliers lorsque leur maison ou un bien foncier qui leur appartient se trouve sur le trajet, Les ingénieurs, tout ça, font les trajets, hein, mais ça passe par une propriété privée. Alors, le projet devient prioritaire. Il y a négociation, une entente quand même, voilà. Mais je disais ceci, le personnel cède au prioritaire, au projet prioritaire. Quand j'étais ado, j'avais mes projets personnels, j'avais mes rêves d'ado, de carriérisme, de réussite sociale, etc. Et puis un jour, Dieu m'a appelé à le servir. C'est devenu prioritaire. Et Dieu a dû frayer un chemin. Il a fallu que ce qui m'était personnel, eh bien, se laisse évacuer et que le projet de Dieu s'accomplisse. Le Seigneur a un projet de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Il a des plans pour ta vie. Il a des desseins, des chemins tracés d'avance. Depuis toute l'éternité, il nous connaissait et il avait préétabli un cheminement, un parcours. Mais ce parcours, lorsqu'il va chercher à se concrétiser, va rencontrer ta vie personnelle, ta volonté personnelle, tes projets personnels, tes valeurs, tes ambitions, tes rêves personnels. Eh bien, oh, que le Seigneur nous donne aux uns et aux autres d'avoir une attitude qui va accueillir volontiers le projet de Dieu. C'est ce qui s'est passé à Gethsémané lorsque Jésus dira non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que le Père voulait est devenu prioritaire. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc, dans ce façonnage du terrain et de la topographie, il y a quelques phases. Je vais en aborder une ce matin, deux autres tout à l'heure dans l'après-midi, et puis lundi soir et mardi soir, nous terminerons. Je parlerai ce matin, frères et sœurs, de ce grand travail qui est nécessaire au début du verset 4, que toute vallée soit exaucé ou rehaussé. On est devant une question de topographie et d'altimétrie. Tout à l'heure, nous verrons que toute colline, toute montagne soit abaissée. Il y a une question de niveau. Et ce matin, je vais plutôt m'attarder à cette première configuration où nous nous trouverions à un niveau trop bas. Alors, la volonté de Dieu pour préparer son chemin, c'est de rehausser le niveau. Alors, je ne sais pas à quel niveau se trouve chacun d'entre nous ce matin. Une chose est certaine, c'est que si ton niveau est bas, ne t'en désole pas, ne t'en culpabilise pas, mais réjouis-toi parce que Dieu veut relever le niveau. Il ne veut pas te laisser au niveau trop bas où tu es. Ce n'est pas une fatalité, mais Dieu veut relever le niveau. Qui souhaiterait que Dieu relève son niveau? Deux, trois. Non. Je crois que tous. Et moi, le premier, je lève les deux mains de tout mon cœur. Dieu veut relever le niveau quand il est trop bas. Et j'aimerais préciser qu'il veut relever notre niveau lorsque notre niveau moral et affectif est trop bas. Puis nous verrons le fait que Dieu veut relever le niveau lorsque notre niveau spirituel est trop bas. C'est le Dieu du relèvement. Il est ce Dieu-là. Le diable, lui, va employer nos insuffisances pour nous accuser, pour nous culpabiliser. Dieu, lui, va reconnaître l'insuffisance de notre niveau, mais il va l'agrémenter d'une promesse et d'une certitude. il est le Dieu du relèvement. Alléluia. Il veut relever le niveau. Et les exemples sont innombrables d'hommes et de femmes que Dieu a trouvés dans un niveau moral et affectif au fond du gouffre. Ils sont très nombreux, mais il nous faudrait des jours entiers pour considérer chaque cas. Ils sont autant de témoins d'encouragement pour nous ce matin. Ils sont tous en train de te dire, ne perds pas courage. Parce que moi aussi, j'ai été au fond du gouffre et il m'a relevé le niveau. Écoutez ce merveilleux cantique de Anne, la maman de Samuel, lorsque Dieu a eu compassion d'elle, hein, elle qui était bien bas hein, moralement, affectivement, était brisée, mortifiée, en plus sa concurrente ne se privait pas de la ridiculiser, de lui faire honte, etc. Et vous la revoyez, elle est là à l'entrée de la maison de l'Éternel, et elle est tellement abattue qu'elle n'a même pas la force de faire entendre sa prière, seule ses lèvres bougent, elle est très incomprise par le souverain sacrificateur, mais peu importe, elle est là devant Dieu, et là elle reçoit une promesse, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Son visage change. Déjà, moralement, le niveau est rehaussé. Et puis, la promesse s'accomplit. Et elle chante un cantique. Elle compose un cantique. Et dans ce cantique, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. » Amen. Qui manquerait de force ce matin? Qui a le sentiment d'être dans un état vidé, épuisé? Vous savez, épuisé, étymologiquement, c'est quand le puits n'a plus d'eau. Épuisé. Qui a le sentiment, avec les ressources d'aujourd'hui, de ne pas être capable d'aller au terme de sa mission? Qui est fatigué d'espérer une chose qui ne vient pas? Qui est fatigué de soutenir un climat familial défavorable? Qui est fatigué physiquement? Qui est fatigué moralement? Qui manque de force? Qui manque de force? Eh bien, Anne se lève parmi nous ce matin. Et elle nous dit ce témoignage. Ma force a été relevée par le Seigneur. Et son Seigneur, c'est notre Seigneur. Comme il a relevé le niveau de vigueur, de force, d'énergie, de tonicité, il te visite ce matin. Amen. Il salue ce Gédéon, jeune homme, et il lui dit, « Salut, vaillant héros !» Gédéon, il a cherché le héros, il s'est tourné, il a fait 360 degrés. Ah, mais c'est moi. Oui, va avec la force que tu as. C'est le Dieu du relèvement. Seigneur, visite-nous ce matin et relève le niveau moral et affectif. Tous ceux qui ont l'esprit abattu, le cœur brisé, tous ceux qui ont à l'intérieur une souffrance, un trouble profond et tenace. La volonté du Seigneur, c'est de venir, mais il faut préparer le chemin et laisser Dieu rehausser le niveau, que tous les lieux qui sont trop bas soient rehaussés, relevés, que Dieu soit béni. Il y a tant et tant d'exemples qu'on pourrait citer, mentionner. Alors moi, j'en ai saisi trois ici, trois. Ça aurait pu être bien d'autres. La veuve de Naïn, une femme qui a dû gérer le veuvage, la disparition de son mari. Elle reste seule pour élever le Fils unique, gérer son quotidien, imaginer le brisement dans son cœur. Et puis, elle réussit quand même à assurer l'éducation de son fils. Et pour une raison subite et fatale, le jeune homme, fils unique, meurt à son tour. Imaginez le brisement. Imaginez l'état moral. Quelqu'un peut-être parmi nous ce matin se trouve douloureusement atteint dans sa vie affective. Tu as peut-être été fortement meurtri à cause d'un événement. Ça peut être un deuil, un échec cuisant, une désillusion amère. Et Jésus vient. Il faut que Jésus vienne. Et Jésus vient, suivi d'un cortège joyeux d'hosanna et d'alléluia et de louanges, qui se distingue tellement du cortège funèbre là. Les gens courbés, abattus, pleurant le départ d'un jeune homme. Et le Seigneur fait arrêter ce cortège. Et il s'emploie à extraire des profondeurs de sa dépression cette veuve. Ma fille, lui dit-il, ne pleure pas. Et vous savez la suite, de quelle manière il ressuscite le jeune homme et le rend vivant à sa mère. Et le Seigneur ne pourrait-il pas ressusciter quelque chose de mort chez toi? Si tu manques de joie, si ta joie est morte, il a le pouvoir de déverser dans ton cœur affligé un torrent de joie divine, et la joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Es-tu en déficit de paix intérieure? Manques-tu de paix? Est-ce que dans ton sommeil, tu es poursuivi par tes inquiétudes? Mais la solution, c'est que Jésus vienne et qu'il te dise que la paix soit avec toi. Et ce qu'il ordonne, il le donne. Et sa paix incomparable pourra remplir ton cœur. Amen. Manques-tu de sagesse? Ici à Aubagne, non, mais au cas où. Manques-tu de sagesse? Mais Jacques l'apôtre nous donne le conseil qui convient. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera sans faire de reproche, mais qui la demande avec foi. Si je suis en déficit d'intelligence, de sagesse, le sagesse est synonyme de savoir-faire. Tant de circonstances se présenteront sur mon chemin et je ne saurai pas faire. Je manque de sagesse, mais je connais celui qui comble les manquements et qui relève le niveau. Si quelqu'un manque d'amour, la capacité d'en donner, parce que pour recevoir, ça va, hein, c'est agréable de recevoir de l'amour. Et merci Seigneur. Mais je suis appelé à en donner. Et là, quelquefois, ça coince. Mon niveau d'amour est trop bas. Si mes capacités d'aimer font de moi quelqu'un de sélectif dans mon amour, je n'aime que à certaines conditions, certains profils de personnes. Mais l'Église, ce n'est pas ça, mes frères et mes sœurs. L'Église, c'est le peuple où l'amour merveilleux de Dieu règne dans tous les cœurs. Et l'Église va dire un grand amen, là. Oui ou non? Et si on en manque, ben on ne change pas d'Église en disant « le pasteur, il a exagéré, il met le niveau trop haut ». Mais pas du tout, c'est le niveau du Seigneur, c'est le niveau biblique. Si quelqu'un en manque, mais nous connaissons celui qui peut relever le niveau, qui peut nous donner des capacités d'aimer au point même que le fameux « aimez vos ennemis », nous serions capables de le faire. et nous connaissons de nombreux témoignages de chrétiens violemment persécutés et témoignant à leurs bourreaux qu'ils les aiment et qu'ils prient pour eux, que Dieu soit béni. Quel que soit le domaine, si je suis en déficit, si le niveau est trop bas, Dieu est celui qui peut le rehausser. Est-ce que je manque de flamme, comme en manquait l'église de Laodicée, à qui Jésus dira « Tu es tiède !» Une église tiède est une église qui est à un niveau trop bas en matière d'embrasement spirituel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on vient et on invoque le Seigneur et il a la capacité d'embraser mon cœur tout à nouveau. Je bénis le Seigneur d'être né dans des églises de Pentecôte qui ne sont pas parfaites, mais qui m'ont permis de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ah! Et que ce baptême dans le Saint-Esprit ne soit pas comme une ancienne médaille qui décore un mur, mais que cela soit une expérience quotidiennement renouvelée. Soyez remplis du Saint-Esprit. Même, on pourrait traduire, remplissez-vous du Saint-Esprit. Donc, c'est notre responsabilité. Mon frère, ma sœur, si tu trouves que ton niveau de zèle et de flamme est insuffisant, ne reste pas dans cette insuffisance, mais viens vers le Seigneur qui va te remplir du Saint-Esprit dans un nouveau baptême dans le Saint-Esprit, afin que tous ensemble, nous puissions brûler de la flamme sacrée dans un monde qui devient de plus en plus apostate. Eh bien, l'Église, elle, doit être une Église embrasée. Alléluia. Quand on est à un niveau trop bas dans le domaine moral et affectif. La veuve de Naïn. J'ai mentionné ici la femme adultère. La femme adultère. Parce que la femme adultère, au niveau moral, elle devait certainement être dans un état intérieur profondément abattu. La horde furieuse de ses accusateurs ne faisait qu'aggraver son sentiment de honte et de culpabilité. Ils interpellent Jésus et ils lui disent « La loi de Moïse condamne cette femme à la lapidation. Toi, que dis-tu ?» Et imaginez l'état intérieur de cette femme, brisée par sa honte, accablé de culpabilité, et ses oreilles viennent d'entendre le rappel de l'horreur de son péché, et aggraver sa souffrance intérieure. Mais Jésus est là. Quand Jésus vient, ça change tout, hein. Et vous savez de quelle manière le Seigneur va finir par lui adresser cette parole. Où sont passés tous tes accusateurs, et pour finir, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et là, il relève le niveau. Le péché nous enfonce. Si quelqu'un parmi nous a péché et se trouve sous les coups de l'accusateur, ne subit pas ces accusations d'une façon impuissante, mais implore le Seigneur, parce que cette parole « va et ne pêche plus » qu'il a adressée à cette femme, il te l'adresse à toi ce matin et ton niveau est relevé. Il relève le niveau. Heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Quelle joie, quelle libération, quel rayonnement! Il a pardonné mes péchés! Il n'existe plus. Il les a évacués dans son oubli. Et même l'accusateur ne peut pas en faire référence parce qu'ils ne sont plus. Que Dieu soit béni. Le fameux « je pardonne mais je n'oublie pas », ça n'est pas de Dieu. Ça, c'est humain. Ça c'est le pardon humain. Bon, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. Eh bien, la Bible, elle nous parle de la seule amnésie, mais elle est volontaire, que Dieu peut avoir. Il oublie nos péchés, mais il les oublie volontairement et conséquemment à notre repentir et à notre foi, que le Seigneur soit béni. Si quelqu'un est dans le gouffre de la culpabilité, le Seigneur a versé son précieux sang pour te sortir de la culpabilité et te justifier. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Et puis, bon, j'ai trouvé aussi ce troisième exemple. Les deux disciples, vous savez, qui marchaient en direction du village d'Emmaüs, oh, leur niveau était bas. Mais Jésus vient. Il est bas, leur niveau. C'est pas que ce sont de mauvaises gens. Non, mais ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas, ça les bloque et ça les précipite dans un profond découragement. Et il y aura toujours dans la marche chrétienne, dans ta marche personnelle, des choses que tu ne comprendras pas. Il ne faudrait pas que ces choses que tu ne comprendras pas deviennent des facteurs qui te précipiteront dans le découragement. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, n'acceptera pas, n'assimilera pas, mais si tu ne les comprends pas, que ta foi te permette quand même de persévérer. Et quand il y a des incompréhensions, forcément il y a des blocages, et il faut que Jésus vienne pour enlever les blocages. Et si quelqu'un dans son cœur devait avoir des éléments de blocage qui ont figé les progrès de sa foi, que le Seigneur vienne. Ce matin, amen, et par son Saint-Esprit et par sa parole, qu'il enlève les éléments de blocage, que Dieu soit béni. Je termine ce message, frères et sœurs, avec le niveau spirituel. Là, c'était l'affectif, le moral. Là, il y a le spirituel. Le spirituel, vous savez que l'Écriture nous enseigne ceci. Concernant l'homme, il y a trois catégories. Il y a l'homme naturel, appelé aussi l'homme animal. Ça, c'est le pécheur qui est dans son péché, qui ne connaît pas le Seigneur. Et puis, il y a l'homme charnel, appelé aussi le chrétien enfant. Là, il y a eu conversion, mais on est charnel. Et puis il y a l'homme spirituel, qu'on peut aussi appeler l'homme fait, selon la norme de Dieu. Alors voilà, cet auditoire est composé de ces trois catégories. Il y a peut-être parmi nous de chers amis qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Et Jésus veut venir. Il veut se révéler à ton cœur et te permettre de vivre une rencontre avec Jésus, une conversion authentique et profonde. Tu ne seras plus le pécheur perdu, mais tu deviendras un pécheur sauvé, un enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu ne doit pas rester enfant. Et il y a cette deuxième catégorie, certainement parmi nous, de chrétiens, mais qui sont devenus, des chrétiens enfants. Charnel. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel ? C'est un chrétien qui, trop rapidement, laisse ses émotions prendre le dessus sur la vie spirituelle. Son caractère, son tempérament, ses réactions subites s'échappent à la gouvernance du Saint-Esprit et le conduisent à tenir des propos qu'il va regretter plus tard, à avoir des réactions qu'il va regretter plus tard, des choses qui ne vont pas glorifier le Seigneur. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur dit très explicitement et avec beaucoup de regret, parce que il va leur dire « Mais vous êtes restés enfants, vous êtes des charnels, je n'ai pas pu vous servir une nourriture consistante, vous avez toujours besoin du biberon gigose premier âge. » De 0 à 3. 80 grammes. Il faut toujours vous rappeler les balbutiements de la marche chrétienne. Et vous faites un blocage de croissance. Il faut devenir adulte. Il faut tendre à laisser l'enfance et l'enfantillage pour entrer dans la maturité spirituelle et puis l'homme spirituel. Et Paul dit que l'homme spirituel, il juge de tout. Pas de tous, on ne se juge pas les uns les autres, mais de tout. Et il a du discernement, calmement mais clairement, l'homme spirituel, il a la pensée de Christ. Donc quand on est spirituel, on a une appréciation, une analyse fiable, édifiante, voilà, ce n'est pas partisan, ça ne suscite pas des confrontations, mais on est spirituel. Et on sait ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, et on sait gérer ces situations d'une manière fructueuse et édifiante, que le Seigneur soit béni. Et alors, quand on est chrétien charnel, le niveau est trop bas. Et Dieu veut rehausser le niveau. Amen. Oh là là, quelqu'un est en train de se dire qu'il n'aurait pas dû prêcher ce matin. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, je nous encourage à prier le Seigneur pour que dans tous les domaines de notre vie personnelle où le niveau spirituel serait trop bas, il nous vienne en aide et qu'il rehausse le niveau. Amen. Qu'il rehausse le niveau. Et que disparaisse du milieu de nous tout propos qui exprimerait un esprit partisan. Moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, eh bien, moi, je suis meilleur que vous parce que je suis directement de Christ. Alors, c'était les TTS, les très, très spirituels, vous voyez. Mais c'était, le résultat, c'était une église fragmentée, fissurée, complètement chaotique. Et quel dommage. Christ est-il divisé, dira l'apôtre Paul. Donc, c'est un besoin impérieux que Dieu relève notre niveau spirituel et fasse de nous des chrétiens adultes et matures. Alors, voilà, de même que je l'ai dit hier après-midi, je termine sur cette question, comment faire? Comment faire? Comment? C'est bien beau. Il faut, on l'a compris, rehausser le niveau. Mais comment faire? Comment combler les insuffisances, les manquements? Comment combler? Alors dans le monde, lorsque on manque de quelque chose, on utilise divers matériaux. Voyez, alors les gens, ils essaient de combler par des matériaux illusoires, hein, les plaisirs, les loisirs, la culture, la musique, l'art, le sport, les fréquentations, quelquefois une vie aventureuse, etc. Ils essaient de combler le vide, hein, ça, mais ça c'est dans le monde, ça, dans le monde. Moi qui suis enfant de Dieu, lorsque je réalise dans ma vie la nécessité de combler un déficit, je sais que les matériaux qui correspondent à mon besoin sont les matériaux du ciel. Amen. C'est dans les réserves de mon Dieu que je vais puiser les matériaux bénis qui vont relever mon niveau. Et ça, c'est par la foi. C'est ma foi va me permettre de récupérer, de m'approprier les trésors du ciel. Gloire à Dieu. C'est d'en haut, du Père des Lumières, que descendent tout don parfait, toute grâce excellente. Alléluia. Donc, la raison d'être de ce temps de jeûne et prière est renforcée par cette nécessité. Ce sont des temps qui vont nous permettre de venir auprès de celui dont les réserves sont inépuisables. Et il veut les déverser dans ton cœur. Alléluia, afin que ton niveau soit rehaussé et atteigne le niveau qui va satisfaire et glorifier le Seigneur. Et nous faisons ces démarches sans aucune sorte de culpabilité, de honte, mais en toute sincérité et transparence. Et moi qui vous enseigne ce matin, mais j'ai besoin dans plusieurs domaines que Dieu rehausse mon niveau, hein, rehausse ma vie de communion, ma vie de prière, ma méditation des textes saints, le zèle inspiré de mon service. Je ne veux pas devenir un fonctionnaire de l'Évangile, mais je veux élever le niveau et être un serviteur inspiré. Je ne peux pas faire mes visites pastorales en prenant simplement une liste et par ordre alphabétique. Non, il m'est arrivé tant de fois, frères et sœurs, brusquement, de recevoir sur mon cœur la nécessité immédiate d'aller visiter quelqu'un. Quelquefois même à des horaires indus, quelquefois vers midi et demi, 13h, un jour on rentrait tardivement avec ma femme et en arrivant à 3 km de la maison, je dis « Chérie, on ne rentre pas à la maison, il faut que j'aille visiter ce couple. » Et on arrive et avant même de sonner à la porte, j'entends des vociférations à travers la porte. Et j'insiste et on m'ouvre et là j'assiste à une scène. Des prétendus prédicateurs avaient visité derrière mon dos ce jeune couple qui se préparait pour le baptême et ils étaient en train de leur apporter de mauvaises doctrines qui les troublaient, qui les perturbaient. Ils chassaient des démons imaginaires avec des vociférations de dératés et j'ai compris que ma visite ce jour-là, à cette heure-ci, chez ces gens-là, étaient inspirés de Dieu. Combien de fois ce sont des expériences que nous vivons, parce que nous ne sommes pas des machines et des fonctionnaires, mais nous voulons relever le niveau de communion avec Dieu et être inspirés, venir au bon moment, avec le bon message et visiter la bonne personne, que le Seigneur rehausse notre niveau avec ses matériaux à lui. Gloire à Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit, les dons spirituels, la sagesse d'en haut, les énergies et les forces, vous recevrez une puissance. Tout ça, ça vient d'en haut et ces temps de jeûne et de prière sont vraiment, je le crois, un rendez-vous que Dieu a avec chacun d'entre nous pour combler et exaucer tous les domaines de vos vies personnelles où vous avez besoin d'encouragement et de relèvement. Il est le Dieu de ton relèvement et il veut relever le niveau. Alléluia. On va demander au Seigneur sa grâce. Ensuite, nous aurons un petit moment d'annonce, puis de salutation. Et à midi, nous nous retrouvons pour un temps encore.